Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Ce sera une reprise extrêmement progressive, mais néanmoins une reprise. Donc c'est un moment important pour toute la communauté de Paris-Orly.
PNC à vos portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. À partir de demain, des avions vont de nouveau décoller de l'aéroport d'Orly. Un dépistage massif pour détecter des clusters dormants. L'opération va concerner plus d'un million de franciliens.
On est sur un dispositif avec la possibilité d'aller se faire tester en laboratoire pour avoir un dépistage efficace pour toute la population.
Le parquet national financier a-t-il franchi une ligne rouge? Les enquêteurs sont-ils allés trop loin dans l'affaire Sarkozy? Des avocats ont été épiés, notamment Maître Dupond-Moretti.
C'est scandaleux, ces gens-là s'autorisent tout. Et moi je dis qu'il est grand temps maintenant de les arrêter.
La cour d'appel condamne le laboratoire Merck dans l'affaire du Lévothyrox. Il devra verser 1 000 euros à chaque patient pour ne pas les avoir informés suffisamment sur la nouvelle formule de son médicament. Et puis la réouverture de la Tour Eiffel aujourd'hui. Des visiteurs motivés ont grimpé les 674 marches menant au deuxième étage par 35 degrés et avec un masque. La Bourse de Paris a retrouvé un peu de couleur aujourd'hui après sa nette baisse de la veille, plus 0,97%. Le CAC 40 à 4918 points. Claire Lemaître de boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Du côté du ciel, changement de programme demain avec le retour des nuages et de la pluie. Il n'y a qu'au bord de la Méditerranée que le temps restera encore sec et ensoleillé. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'Interview Éco. Ce soir, Carole Ferry reçoit Nathalie Bala, la coprésidente de La Redoute.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc une nouvelle étape importante dans le déconfinement. Demain matin, 6h, sur la piste 3 de l'aéroport d'Orly, décollage du tout premier vol commercial post-confinement. À quelques jours des grandes vacances, Aurélien Fleureau, vous avez suivi les préparatifs. Alors c'est un gros travail, évidemment, pour un redémarrage qui va se faire en douceur.
Oui, puisque ce sera d'abord au Terminal 3, le plus récent, il avait été inauguré au printemps dernier, que les activités vont d'abord se concentrer. Les pistes ont été minutieusement nettoyées après des semaines avec seulement quelques vols de rapatriement ou de cargo sanitaire. La nature avait quelque peu repris ses droits, les oiseaux avaient profité du silence pour s'installer, l'herbe poussait un peu plus que d'habitude. Et c'est justement sur la piste qui sera utilisée dès demain matin que Michel Landel, responsable de l'exploitation à Orly au sein du groupe ADP, a exprimé sa satisfaction de voir à nouveau des avions, même si ce sera forcément différent d'un début d'été classique.
D'habitude, on a en temps normal 600 mouvements par jour et 90 000 passagers. Ce sera une reprise extrêmement progressive. Ça représente moins de 10% du trafic, hein, ce premier jour, mais néanmoins une reprise. Donc c'est un moment important pour toute la communauté de Paris-Orly.
Quelques boutiques se préparent également à accueillir à nouveau des passagers, mais là aussi en s'adaptant à cette reprise progressive avec une soixantaine de salariés contre 400 en temps normal. Premier départ donc demain 6h, le début d'un été pas comme les autres à Orly, qui par exemple ne reverra pas d'avion Air France avant fin août, et avec bien sûr un protocole sanitaire inédit, gel, marquage au sol, et puis présence de caméras thermiques au niveau des arrivées.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, 74 vols prévus demain à Orly, c'est 10 fois moins qu'en temps normal. Et à propos d'aviation, le premier groupe de transport aérien européen, Lufthansa, sauvé de la faillite grâce à un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros qui lui évite la cessation de paiement et qui voit l'État allemand en revenir à son capital. Des avions qui décollent vers l'Europe alors que l'OMS s'inquiète d'un rebond de l'épidémie sur le vieux continent. Elle met en garde les Européens, ne surtout pas relâcher la vigilance. En France, une campagne expérimentale de tests à grande échelle va être lancée pour identifier d'éventuels clusters dormants. C'est ce que réclament depuis longtemps de nombreux médecins, davantage de dépistage, d'autant que maintenant on a tous les tests nécessaires. Certains sont même sur le point de périmer. Autant donc les utiliser sans tarder. Pauline Jacquot, l'idée c'est donc d'aller chercher des foyers qui n'auraient pas encore été identifiés.
Oui, on va cibler des zones proches des foyers d'infection connus et les autorités de santé vont inviter tous les habitants à se faire tester. L'objectif, c'est de mettre la main sur les asymptomatiques. Tous ces cas que l'on ne connaît pas, mais qui contaminent d'autres personnes. Eh bien, on veut casser ces chaînes de contagion en incitant tout le monde à pousser la porte d'un laboratoire.
Et ces tests à grande échelle, Pauline, vont commencer d'abord en Île-de-France.
Ça va commencer en Île-de-France, exactement. Expérimentation dans les prochains jours dans une trentaine de communes. 1 300 000 personnes vont recevoir un courrier. Ce sera un bon de l'assurance maladie pour un test gratuit. Une campagne très importante selon Marion Verguelen, directrice de l'association des maires d'Île-de-France.
On a notamment des populations qui n'ont pas forcément accès très facilement à des soins. Il y a des territoires qui ont très peu de médecins. Donc là, on est sur un dispositif avec la possibilité d'aller se faire tester en laboratoire. Donc c'est important que le sujet financier ne soit pas un frein pour avoir un dépistage efficace pour toute la population.
L'expérience, dit Olivier Véran, pourrait ensuite être étendue à d'autres régions. Pour l'instant, en Île-de-France, les villes, nous dit-on, sont choisies selon trois critères, le niveau social, le taux de positivité du virus et la demande en test de la population.
Les précisions de Pauline Jacquot. Du côté du personnel soignant, on connaît désormais le montant de l'enveloppe prévue par le gouvernement, 6 milliards d'euros, pour des hausses de salaire qui s'appliqueront à partir du 1er juillet. Une somme qu'il va falloir partager entre l'hôpital public, les EHPAD, mais aussi le privé. Alors au final, que restera-t-il sur chaque fiche de paye? Aucun détail n'a filtré. Arthur Enbaché, vous avez passé la journée à l'hôpital de Strasbourg, où comme partout, on attend d'en savoir plus et où on se pose beaucoup de questions. Hein.
Et la question qu'ici à l'hôpital tout le monde se pose, c'est 6 milliards, d'accord, mais pour qui, infirmiers, aides-soignants et les brancardiers comme moi par exemple, se demande Joseph.
J'ai un salaire brut de 1008, mais j'ai derrière déjà 30 ans de service. J'attends les faits réels parce que pour l'instant c'est que des annonces. Je suis assez pragmatique, moi j'attends.
Doris a passé un printemps au front en mode chair à canon, dit-elle, elle est infirmière anesthésiste.
Ma toute première réaction, je me dis comment que ça va être distribué, qu'est-ce qu'ils en font. Si c'est pour tout le monde, c'est pas énorme, c'est pas grand-chose. Si c'est que pour les soignants ou si c'est pour tous les hospitaliers, parce qu'on est quand même très nombreux dans la France, c'est 6 milliards.
Jean-Claude Matry dirige la CFTC des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Alors 6 milliards d'euros, c'est bien, mais c'est pas assez. Le soignant, oui, mais un hôpital ne fonctionne jamais sans les autres, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient aides-soignants, qu'ils soient ASH, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient informaticiens, c'est toute une chaîne qui doit être récompensée, quelle que soit leur profession.
Sans compter l'hypothèse selon laquelle une part du gâteau serait réservée au secteur privé.
Arthur Embachet, correspondant d'Europe 1 à Strasbourg, les soignants qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Et puis notez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera demain à 8h15 sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard. Emmanuel Macron a installé, comme prévu aujourd'hui, une mission indépendante d'évaluation de la gestion de la crise. Elle va plancher pendant 6 mois et remettra son rapport à la fin de l'année. Une initiative qui suscite l'incompréhension des parlementaires qui ont déjà, vous le savez, leur propre commission d'enquête. C'est un effet positif du déconfinement, la baisse record du nombre de chômage au mois de mai, moins 3,3% par rapport à avril, soit 150 000 inscrits en catégorie A en moins. Les intérimaires qui ont été les premiers à perdre leur emploi ont également été les premiers à en retrouver, mais à temps partiel.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08, c'est la suite de votre journal et l'on reparle donc ce soir de l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy après les révélations de l'ancienne chef du parquet national financier qui dénonçait la semaine dernière les pressions reçues lors de l'enquête sur François Fillon en 2017. Cette fois, c'est au tour du parquet lui-même de faire l'objet de révélations embarrassantes. La justice aurait espionné plusieurs avocats parisiens. Le parquet national financier aurait épluché des factures téléphoniques et même géolocalisé des avocats de l'entourage de l'ancien président de la République et cela pour tenter d'identifier une éventuelle taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy ou son avocat Thierry Herzog du fait qu'ils étaient sur écoute. Chloé Triomphe, on rappelle qu'à l'époque, les juges enquêtaient sur l'affaire Bettencourt.
Oui, et dans cette affaire, les juges enquêtent sur un possible trafic d'influence de l'ex-chef de l'État qu'ils soupçonnent de vouloir corrompre un haut magistrat en échange d'informations sur l'avancée de cette enquête Bettencourt. Voilà pour le cadre dans lequel ils écoutent donc les conversations téléphoniques de Nicolas Sarkozy et de son avocat qui ont ouvert une ligne sous un autre nom, celui de Paul Bismuth. Or, un certain 26 février 2014, les deux hommes changent radicalement d'attitude et font preuve au téléphone d'un rétropédalage tel que les enquêteurs et les juges sont persuadés que quelqu'un les a alertés qu'ils étaient sur écoute. Alors d'où vient la fuite? Du parquet, d'un autre avocat? C'est dans ce but que le parquet national financier ouvre très discrètement une enquête et vérifie les appels entrants de ses propres magistrats et surtout demande les factures détaillées de plusieurs grands cabinets d'avocats, dont celui de Maître Dupont-Moretti.
Mais ce sont des méthodes barbouzardes qui sont absolument indignes. Moi, je dénonce depuis quelques années une vraie dérive. Il y a quelques juges, je dis bien quelques juges, qui s'affranchissent de toutes les règles. C'est scandaleux, ces gens-là s'autorisent tout. Et moi je dis qu'il est grand temps maintenant de les arrêter. Je vais la déposer cette plainte, je ne sais pas si elle aboutira. Je vais la déposer pour une atteinte à l'intimité de ma vie privée. Je vais la déposer pour une violation de mes correspondances et je vais la déposer pour une violation de mon secret professionnel. Moi, je suis scandalisé.
Une affaire dans l'affaire qui pourrait inciter les avocats de la défense de Nicolas Sarkozy à demander le report du procès prévu en novembre prochain.
Les explications de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Nicolas Sarkozy lui-même dénonce ce soir une accumulation de manquements et de dysfonctionnements. C'est une autre affaire dont on avait beaucoup parlé, celle du Levothyrox. Le laboratoire Merck vient d'être condamné par la cour d'appel de Lyon. Il devra verser 1 000 000 € à chaque patient qui s'était plaint d'effets secondaires lors du passage à la nouvelle formule de ce médicament prescrit pour soigner l'hypothyroïdie. La justice a reconnu un défaut d'information. Elle donne donc raison à ces patients qui vont recevoir, je vous le disais, 1 000 € chacun de la part du labo. Écoutez la réaction de la porte-parole de ces plaignants, Brigitte Courville.
Ah, soulagé. Je dirais pas que c'est une grande victoire, mais on était entendus. On n'est pas des malades imaginaires comme on nous l'a fait croire, comme Madame Buzyn, qui était à l'époque ministre de la Santé, souriait vraiment ironiquement devant notre état et ne voulait pas le reconnaître. On n'est pas des malades imaginaires. On a eu des symptômes, on ne savait pas d'où ils provenaient. Et la reconnaissance, c'est énorme. L'argent, que ce soit 10 000 euros, 1 000 euros, 1 euro, c'est être reconnu. Comme victime, on a souffert. On est une victime des lobbies pharmaceutiques. Et là, maintenant, je pense que les gens sont un peu plus portés sur le côté lobby des labos. Bon, il y a Servier hein, qui était le premier, maintenant il y a Merck. Voilà, ça vaut le coup de se battre quand même. Ça vaut le coup de se battre. On n'abandonne pas, on lâche pas, on continue.
La satisfaction de cette porte-parole des plaignants, Brigitte Courville, avec Jean-Luc Boujon à Lyon, le laboratoire Merck annonce qu'il va se pourvoir en cassation. Le djihadiste français Tyler Villus, jugé depuis ce matin par la cour d'assises spéciale pour des crimes commis en Syrie. Il est soupçonné d'avoir été un cadre de Daesh et même d'avoir joué un rôle dans les attentats de novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Il risque pour cela la prison à vie. La descente aux enfers de la société allemande Wirecard, accusée d'une très vaste fraude à hauteur de 2 milliards d'euros dans ses comptes. Ce géant du paiement en ligne, qui compte 6 000 salariés, a déposé le bilan. Aujourd'hui, à la suite de ces révélations, le ministre allemand des Finances parle d'un scandale sans équivalent dans le monde financier. Les premiers départs en vacances d'été, demain déjà, bison futé, attention, prévoit du rouge en Ile-de-France et samedi, ce sera classé orange. Et peut-être profiterez-vous de ces vacances pour visiter la Tour Eiffel. Ça y est, elle a rouvert aujourd'hui au public avec un nombre de visiteurs limité, bien sûr, et sans ascenseur. Et ça change tout. 674 marches par 35 degrés avec un masque, je vous laisse imaginer. Et pourtant, apparemment, tout le monde était ravi. Reportage Marion Gauthier.
Encore des escaliers à monter.
Plus que quelques marches et Léo lève le nez.
C'était un peu dur. Quand on était au soleil en bas, on transpirait.
Pour eux, c'est plus simple parce que le masque pour monter les escaliers, fou. Sortie de confinement, c'est compliqué.
Mais la vue est d'autant plus belle et le père de famille a attendu cette date du 25 juin.
Pour marquer le coup, quoi. C'est comme le symbole de Paris. Le redémarrage de la France, du confinement, la fin du Covid, pour eux, c'était assez marquant. Donc le fait que de sortir de tout ça, de redémarrer la vie, c'est important.
Ce redémarrage sera progressif. Pour l'instant, l'ascension s'arrête au deuxième étage, mais c'est bien assez haut pour Pascal.
Voilà, de toute façon, j'avais tout donné. Hein. J'avais plus rien dans le coffre. Regardez les petits jardins partout sur les toits, c'est pas mal. Hein.
Et même le directeur général de la Tour Eiffel, Patrick Branco-Ruivo, ne s'en lasse pas. Il faut dire que la chaleur se fait moins écrasante à mesure que la vue se dégage.
Quand vous êtes à l'intérieur des escaliers, vous voyez aussi la structure de l'intérieur. Et donc je pense que quand on passe par les escaliers, on connaît mieux la Tour Eiffel.
Après sa fermeture la plus longue en temps de paix, la Dame de Fer devrait accueillir 12 000 visiteurs par jour cet été. C'est moitié moins que les années précédentes.
Le reportage de Marion Gauthier, on précise que les ascenseurs ne reprendront du service que mercredi prochain et que le dernier étage, lui, rouvrira à partir du 15 juillet. Les joueurs du PSG, Neymar en tête, ont repris aujourd'hui l'entraînement collectif après 3 mois et demi d'arrêt. Première étape avant leurs dernières échéances nationales et européennes de la saison. Vous savez que l'été sera chargé avec 2 finales à disputer fin juillet, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France et un quart de finale de la Ligue des Champions mi-août à Lisbonne. Après la Ligue 1, la Grogne gagne la Ligue 2. Le club de foot d'Orléans va saisir à son tour le Conseil d'État pour contester sa relégation à l'échelon inférieur. Le Mans, lui aussi relégué, devrait faire de même. Et puis, Jérémy Mathieu met un terme à sa carrière. Il était au Sporting Portugal depuis 2017. Le Français de 36 ans raccroche les crampons après une grave blessure au genou subie à l'entraînement. Défenseur polyvalent, le joueur formé à Sochaux et passé par le Barça a connu 5 sélections avec l'équipe de France. On jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Et sur le petit papier que vous m'avez donné tout à l'heure, vous m'avez gentiment conseillé de ne pas mettre de sandales nu-pieds demain. Effectivement, Anissa, changement de temps avec de plus en plus de nuages.
Ah oui, on va vraiment sentir la différence, effectivement, Isabelle. Demain, dans la matinée, sur les Hauts-de-France, les Ardennes et la région parisienne, le ciel sera beaucoup plus couvert que ces derniers jours, avec dès le début de la journée, sur le quart nord-est, des averses. Sur la moitié ouest du pays, là aussi, des nuages et des éclaircies qui se disputent le ciel, en tout cas pour le matin. Il n'y a finalement que sur le bassin méditerranéen que le soleil brille dans la matinée. Dans l'après-midi, c'est encore autre chose, puisque les orages éclatent sur tout le pays. Demain, aucune région ne sera épargné à part le bord de la Méditerranée. Mais pour tout le monde, c'est un régime d'orage. Demain, avec d'ailleurs sur le sud-ouest, le Limousin, l'Auvergne et le centre-Val de Loire, des orages qui, dans ces secteurs, pourront être assez forts, accompagnés de grêles et de vents violents. Les températures, elles sont encore chaudes demain matin avec 14 à 21 degrés en moyenne, 13 à Épinal, 14 à Metz et Nancy, 16 à Lorient et Strasbourg, 17 à Nantes, Clermont-Ferrand et Belfort, 19 à Biarritz et Perpignan, 21 degrés demain matin à Paris. C'est chaud. Et puis dans l'après-midi, nous aurons une grande amplitude avec 20 à 34 degrés. 20 à 23 degrés sur le nord-ouest au bord de la Manche par exemple, 25 à 30 sur l'ensemble du pays avec 29 degrés à Paris et 30 à 34 degrés sur la moitié sud du pays avec 34 à Lyon.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Dans un instant, c'est la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant l'invité Echo, Carole Ferry reçoit ce soir la coprésidente de La Redoute. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17, merci à vous d'écouter Europe 1. Comme tous les soirs, on s'intéresse maintenant à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui a eu bien du mal à se décider ce soir, mais qui finalement c'est la hausse qui l'emporte.
Oui, le Dow Jones a beaucoup hésité. Finalement, il rebondit de 1,17% à 25 744 points. Le Nasdaq gagne 1,09%, 10 017 points. La situation sanitaire continue d'inquiéter avec une aggravation, une hausse des cas de coronavirus au Texas et en Floride notamment. Cette situation, elle touche directement les grandes entreprises. Walt Disney a reporté la réouverture de ses parcs à thème et de ses hôtels en Californie. Le titre Disney perd 0,6%. L'enseigne de magasins Macy's, située à New York, subit aussi de plein fouet cette crise. Elle va supprimer environ 3 900 postes, soit 3% de ses équipes pour réduire ses coûts. Macy's chute de 4% ce soir. Alors c'est mieux pour les banques qui soutiennent vraiment Wall Street. Washington serait sur le point d'assouplir à nouveau la loi Volcker. Cette loi, elle avait été introduite après la crise financière de 2009 pour limiter la spéculation des activités à risque. Si elle est modifiée, ce serait bien sûr une bonne nouvelle pour le secteur. JP Morgan monte de 3,5%, Goldman Sachs de 4,5%. Le pétrole se reprend, il gagne 2%, $38,80 le baril sur le NYMEX.
Et la séance a également été hésitante à Paris aujourd'hui, mais finalement, c'est là aussi la hausse qui l'emporte.
Oui, après sa chute hier de 3%, le CAC 40 reprend 0,97%. Il termine à 4 918 points. En tête du CAC 40, on trouve Worldline, le spécialiste des paiements en ligne. Worldline qui profite des déboires de son concurrent allemand Wirecard. Vous en parliez dans le journal. Wirecard qui a annoncé donc l'ouverture d'une procédure de dépôt de bilan. Le titre s'est effondré de 70% aujourd'hui à la Bourse de Francfort. À Paris, Worldline monte de 6%. On a suivi Sanofi également. Le laboratoire français se prépare à annoncer des centaines de suppressions de postes selon l'agence de presse Reuters. On devra en savoir plus demain ou lundi.
Et le marché parisien a été soutenu en fin de séance par le secteur bancaire.
Oui, les banques sont en forme à Paris comme aux États-Unis. Société Générale gagne 3,5%. Natixis bondit de près de 8%. Séance plus compliquée pour Pierre et Vacances. Le numéro 1 en Europe des résidences de loisirs estime son manque à gagner avec la crise à 331 millions d'euros. Et le titre perd 0,3%. C'est du vert ce soir en Europe. Petite hausse de 0,4% pour Londres. Francfort gagne 0,7%, plus 1% pour Madrid, plus 0,4% pour Milan. Et le CAC 40 reprend 1%. Il termine à 4 918 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On vous dit à demain, Claire Lemaître de boursier.com. Il est temps de retrouver l'invité Echo. Carole Ferry, vous recevez ce soir la coprésidente de La Redoute.
Nathalie Bala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la coprésidente de La Redoute, que vous avez rachetée il y a 6 ans pour 1 euro symbolique. Le bilan, aujourd'hui, c'était une bonne idée, ce rachat?
Excellente. S'il fallait, je re-signerais des 4 mains avec Éric Courteil. On est là, on ne donnait pas forcément pour existant encore aujourd'hui. Et nous, on est là, on y a cru avec Éric Courteil et on a réussi.
Comment se porte La Redoute aujourd'hui?
La Redoute se porte bien. On a transformé, on a, je pense, passé le stress test du Covid suite à une transformation vers un modèle digital. Et le Covid a montré que les modèles digitaux avaient particulièrement bien performé. Donc la Redoute est dans cette lignée-là.
Est-ce que pendant cette période, justement, vous avez bénéficié du boom des ventes en ligne ou est-ce que quand même il y a eu une période un peu plus difficile ?
Il y a une période définitivement plus difficile entre le 15 mars et fin mars où je pense que les Français et les Françaises étaient dans un état de sidération et avaient besoin finalement de s'organiser et de comprendre ce qui leur arrivait. Donc là, ce qui a très très bien marché, c'est bien sûr les ventes de PC, mais ce n'est pas forcément le cœur de notre collection. Et ensuite, à partir de fin mars, les gens sont sortis d'un état de sidération et finalement se sont organisés et ont essayé d'embellir leur vie et ont utilisé la Redoute pour embellir leur vie au quotidien. Les ventes qui ont le mieux fonctionné sont les ventes en fait de vêtements bébés, enfants, donc parce que les enfants, ça continue à grandir malgré le confinement. Et aussi les ventes d'ameublement, d'aménagement de l'intérieur, mais aussi du jardin, qui ont cartonné.
Au niveau logistique, comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que les règles sanitaires entraînent encore des contraintes ou est-ce que ça s'améliore ?
Alors les règles sanitaires entraînent des contraintes parce qu'on a le port du masque, on a en fait des règles d'hygiène et de distanciation qui imposent des contraintes. Mais comme on a investi pour 50 millions dans un nouveau site logistique complètement automatisé, aujourd'hui en fait on est à 100% de notre capacité de production depuis un certain temps déjà.
Et si vous nous emmenez un petit peu dans les coulisses de la Redoute, quand nous on fait un clic pour commander et que derrière il y a toute une machine qui se met en route pour que ça arrive jusqu'à chez nous, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ce processus ? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à aller plus vite ?
Ce qui a changé, c'est cette logistique qui est complètement automatisée, qui fonctionne en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous passez commande à la Redoute, 2 heures après, votre colis sort de notre entrepôt logistique et a été confectionné et prêt à être envoyé. Donc en fait, on est en capacité de vous livrer en 24 heures.
Alors vous poursuivez l'ouverture des magasins physiques, la Redoute intérieure. C'est quoi le poids aujourd'hui de ce secteur par rapport à l'habillement ?
Alors on a développé des magasins physiques, mais de petite taille, hein, 350 mètres carrés. L'idée, c'est vraiment de créer du lien avec nos clients, d'avoir un lieu d'inspiration et de rapprocher nos produits et la marque Redoute de nos clients. Donc c'est essentiellement aujourd'hui que de la maison, donc pas de la mode. Et on a 10 magasins en propre et 50 corners auprès des Galeries Lafayette.
Mais au sein de la Redoute aujourd'hui, que pèse l'habillement et que pèse la Redoute intérieure ?
Alors, la maison pèse 60% de notre chiffre d'affaires et le prêt-à-porter pèse 40% de notre chiffre d'affaires.
Et c'est quoi votre positionnement aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez développer encore justement ce secteur de la maison ou est-ce que vous dites non, il faut vraiment aller sur l'habillement ? Est-ce que vous essayez de gérer les deux ? Vous visez qui et vers quoi vous voulez aller ?
Nous, notre raison d'être, notre vision, c'est d'embellir la vie des familles. Donc, notre clientèle, c'est très clairement les familles. Notre ambition, c'est d'avoir une offre lifestyle, mode et maison qui puisse permettre justement d'embellir la vie des familles. Donc on est vraiment ces deux piliers sur lesquels on s'appuie et on continue à développer notre offre à la fois propre, puisqu'on développe nos propres collections et on a des équipes de stylistes en interne, de modélistes, et avec des marques nationales emblématiques au travers de notre marketplace.
Parce qu'on peut dire vraiment aujourd'hui que la Redoute intérieure a réussi hein, sur la scène pour être marqué comme une marque un peu tendance, on va dire que vous avez vraiment dépoussiéré la Redoute. Vous avez réussi comment ce pari ?
C'est un pari, je dirais, de longue date, hein, puisqu'on a commencé à transformer l'offre maison dès 2012, hein, avec vraiment une vision très claire de proposer une offre accessible, lifestyle, moderne, vraiment dans l'air du temps. Et on a travaillé avec les équipes pour transformer cette offre. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, on a une offre extrêmement désirable avec un super rapport qualité-prix. Auparavant, on allait voir les fournisseurs et on référençait des produits. Donc, on avait une offre tout à fait comparable à celle que vous pouvez trouver chez les gros autres acteurs. Et on a commencé à travailler sur la maison comme sur le prêt-à-porter, c'est-à-dire avec un bureau de style, avec des infographistes et à développer notre propre finalement positionnement et marque, donc Redoute Intérieure, vous le citiez, mais il y a aussi AMPM, pour avoir une offre de maison très différenciante sur le marché avec une vraie valeur ajoutée par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché par ailleurs.
Mais est-ce que ça veut dire que pour l'avenir, vous comptez miser sur ce secteur de la maison ou quand même l'habillement va rester une de vos priorités ?
Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on construit vraiment sur une offre lifestyle, donc sur les deux piliers, sur le prêt-à-porter et la maison. C'est au cœur du projet qu'on avait écrit avec Eric Courteil en 2014. Nous, notre ambition, c'est vraiment d'équiper la famille, à la fois en termes de vêtements, mais aussi sur leur intérieur.
Eh bien, Nathalie Balla, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous. Au revoir.
Et très bonne soirée à vous également, Carole Ferry. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Déconfinement, ne nous emballons pas, titre Libération. Des statistiques à la baisse et l'envie de passer à autre chose. Le relâchement s'installe en France où la maladie semble sous contrôle. Pourtant, un rebond de l'épidémie à la rentrée est une hypothèse sérieuse, tandis que le virus poursuit sa progression sur d'autres continents. Covid-19, l'Europe vigilante pour éviter un rebond, alors qu'en Allemagne, au Portugal et dans les Balkans, le nombre de cas repart à la hausse, nous dit Le Figaro. L'OMS met en garde les Européens contre un risque de résurgence de l'épidémie. Voter malgré tout, titre le journal La Croix. Les candidats aux municipales craignent une abstention record pour le second tour qui se tient ce dimanche, au terme d'une campagne historiquement longue. Gauche, vert, fusion locale, union bancale, écrit l'Opinion. Les alliances entre le PS, Europe Écologie Les Verts ou la France Insoumise sont aux portes de plusieurs mairies à la veille de ce second tour, mais la méthode semble encore difficilement transposable au niveau national. Emploi accalmie en pleine tempête pour Ouest-France. Les demandeurs d'emploi sans aucune activité sont moins nombreux en mai qu'en avril. Le déconfinement a redonné un peu d'air et le chômage partiel mis en place par le gouvernement a joué un rôle d'amortisseur. Mais plus de 6 millions de personnes cherchent un emploi. C'est le plus haut niveau depuis 1996, d'après les statisticiens. Emploi, une mesure choc face au risque de génération sacrifiée, écrivent les Échos qui nous disent qu'une exonération de charges salariales est à l'étude sur les embauches des jeunes. L'employeur verrait son coût du travail réduit sur plusieurs années. La facture pourrait dépasser 10 milliards, c'est à lire. Donc dans les Échos, voilà pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes bien entendu en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Je vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'info.
Exactement, à tout à l'heure.